France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Nourrice, quand les filles des champs veillent sur les enfants des autres, par le sens même du mot, la nourrice est celle qui nourrit. Mais le mot en réalité couvre de grandes réalités, qu'il s'agisse d'une nourrice allaitante ou d'une nourrice dite sèche, qu'elle s'occupe des enfants placés chez elle ou qu'elle s'installe chez des gens, qu'elle vienne d'Alsace, du Morvan ou de Normandie. Sous le Second Empire, le fils de Napoléon III, Bambin, disposait de deux nourrices. Et pour le docteur Barthès, médecin du prince impérial, la nourrice est une bouteille de lait et rien de plus. Mais ça, c'est l'avis d'un médecin soucieux d'éliminer la concurrence. Une bouteille de lait, non, elle ne l'est pas.
Comment devient-on nourrice ? Les nourrices étaient des paysannes, poussées par la pauvreté.
Au premier enfant, la belle-mère élevait l'enfant et elle partait vendre son lait à Paris.
Le cours de l'histoire.
C'est un courant d'aller et de retour. N'est-ce pas, le bébé est déposé à la couche aux enfants trouvés, mais ensuite il est expédié chez les nourrices, et particulièrement des nourrices d'Île-de-France.
Mais la nourrice n'était pas une nourrice privilégiée qui avait un enfant comme en ville. Elle avait parfois 7-8 enfants. La mortalité de cet enfant, les conditions d'hygiène dans lesquelles il vivait étaient absolument catastrophiques. Et il y a un dicton bien connu au XIXe siècle, « enfant de nourrice, enfant de sacrifice ».
Ce qui fait très peur d'ailleurs, comme dicton du XIXe siècle. Clyde Plumosil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS. Vous avez réalisé votre thèse sur la prostitution, le droit de cité dans le Paris révolutionnaire, mais vous intéressez aux nourrices, parce que vous avez publié comme ouvrage « Prostitution et révolution, les fans publics dans la cité républicaine ». Comment passe-t-on d'un sujet sur la prostitution à un sujet sur les nourrices ?
Eh bien, je pense qu'en fait, il y a la volonté de réfléchir à la question de l'engagement du corps des femmes des classes populaires au travail. C'est un peu Michel Perrault qui m'avait mis la puce à l'oreille dans un dossier qu'elle avait coordonné pour le mouvement social en 1918 sur les travaux de femmes, où elle disait, je la cite, « Le corps féminin fournit sa propre substance. Nourrices donnant leur sein, prostituées livrant leur vagin, les femmes donnent beaucoup plus que leur sueur. » Et en fait, cette phrase, elle m'avait marquée parce qu'elle m'avait permis de comprendre qu'il y avait des formes de filiation à travailler entre différentes formes d'activité féminine parmi les classes populaires. Et de pouvoir saisir une autre facette de cet engagement du corps dans un métier qui a été, lui, légitimé, qui a été adoubé par les classes populaires urbaines qui ont voilà confié massivement leurs enfants aux nourrices des campagnes. Et donc ça m'a permis à la fois de continuer à réfléchir à cet engagement du corps au travail et en même temps de couvrir d'autres espaces, d'autres formes d'arrangements économiques et corporels, et puis de travailler un peu plus cette question de la ruralité qui était restée vraiment à l'écart de mes premiers travaux de recherche.
D'ailleurs, avec les nourrices, nous sommes entre le monde rural et le monde citadin, sachant que c'est à peu près toujours le cas. On sait bien que ce sont des espaces qui sont intimement liés, mais avec les nourrices, c'est le cas. Et d'ailleurs, le mot même « nourrice », c'est ce que je disais en ouvrant l'émission, couvre tellement de réalités. D'ailleurs, c'est nécessaire de distinguer la nourrice par une définition toute simple, c'est celle qui nourrit, mais ça ne suffit pas de dire cela.
Oui, c'est important effectivement de revenir aux mots, vous l'avez dit dès le début de l'émission, et ça nous permet à la fois de comprendre les représentations qui encadrent cette figure de la nourrice supposément bien connue, et en même temps les réalités sociologiques des populations qu'elle recouvre. La nourrice, c'est la femme qui allaite, donc ça peut être la mère allaitante, mais c'est aussi la femme qui allaite pour d'autres enfants que les siens. Et cette nourrice, elle cristallise beaucoup d'attention de la part des contemporains du début de l'époque moderne jusqu'au début du XXe siècle, parce qu'elle devient une actrice de plus en plus centrale de la prise en charge de l'enfance. Mais nourrice, ça recouvre, vous l'avez très bien dit, une diversité de situations de travail. On peut être nourrice au domicile de son employeur, nourrice sur lieu. On peut être nourrice à l'hôpital, c'est-à-dire être la première personne qui nourrit, qui allaite les enfants abandonnés. On peut être nourrice chez soi et recevoir des enfants, soit qu'ils soient confiés par des familles des villes, soit qu'ils soient confiés par l'assistance publique ou les hospices avant l'assistance publique quand il s'agit d'enfants abandonnés. Et chacune de ces formes de nourrissage ont en commun le fait donc d'allaiter, mais aussi de s'occuper des enfants des autres. Mais recouvrent des situations très variées dans le sens où on n'est pas payé de la même manière, on n'a pas la même liberté d'exercer son travail, on fait pas l'objet de mêmes situations de contraintes, de surveillance. Et donc, du coup, bah, derrière nourrice, il y a une condition plurielle des femmes des classes populaires rurales.
Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous allons voyager, hein, la Normandie, l'Alsace, bien sûr, le Morvan, et puis voyager à travers la société. Mais Clyde Plumosil, il faut faire un sort tout de suite au biberon, sans doute, parce que dans l'idée que ben, s'il n'y a pas de femme pour allaiter un enfant, on pourrait prendre des biberons. Ça, c'est une conception très récente de la manière de nourrir un enfant.
Alors oui, même si on a depuis longtemps tenté de faire des expérimentations d'allaitement au biberon, mais tant qu'on n'avait pas les bonnes pratiques de stérilisation, tant qu'on ne savait pas non plus pasteuriser le lait, donc ça arrive à la fin du 19e siècle, en fait souvent ces expériences se sont avérées plutôt catastrophiques et plutôt mortifères pour les nourrissons. Et surtout, parce qu'en France, il y avait une forte disponibilité des femmes des classes populaires rurales pour être nourrices, on n'a pas investi plus avant ces expérimentations et on a capitalisé en fait sur la possibilité que ces femmes soient en fait un peu les biberons des enfants qui leur étaient confiés.
Je reprends la définition du mot nourrice, donc une maman qui nourrit son enfant est une nourrice. Oui. C'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous allons nous intéresser à des femmes appelées pour nourrir les enfants des autres. Qui sont ces enfants? Donc déjà, dans un premier temps, j'imagine, ce sont les enfants qui n'ont pas de maman. Ça, oui. Par le fait, ce sont eux qui ont besoin d'une nourrice.
Oui, tout à fait. Là, on va travailler plutôt sur cette délégation de l'allaitement et du soin des nourrissons aux premières années de leur vie. Et donc, qui sont les enfants qui leur sont confiés? Et ben ça, c'est intéressant hein, d'avoir justement la perspective de la longue durée de l'histoire pour comprendre un peu ce qui se joue dans la mise en nourrice. La mise en nourrice jusqu'au 17e, début 18e siècle, c'est d'abord et avant tout une pratique de classe. Ce sont les familles de l'élite sociale, de l'aristocratie, de la bourgeoisie qui confient leur enfant à une nourrice, souvent une nourrice de campagne. Mais cette pratique, elle va se massifier. En fait, de pratique de classe, elle va vraiment devenir une pratique de masse au moment du XVIIIe siècle. Et ça, c'est la conséquence de plusieurs choses. C'est la conséquence de l'explosion des abandons. Vous parliez justement hein, de ces enfants qui n'ont pas de maman. Eh bien, en fait, la France traverse une crise de l'abandon du XVIIIe à la fin du XIXe, début du XXe siècle, qui du coup nécessite d'un point de vue vital, en fait, de trouver des femmes pour allaiter ces enfants abandonnés. On parle quand même, hein, pour avoir un ordre de grandeur, de 3 millions d'enfants qui auraient été abandonnés en France entre la fin du 18e et la fin du 19e siècle. Donc autant d'enfants pour qui, théoriquement, il faut trouver des femmes allaitantes. Et puis, on a aussi des transformations du travail féminin des classes populaires urbaines qui fait que, et c'est pour ça que le système se massifie aussi, il est plus intéressant économiquement pour un ménage de donner une partie de son revenu à une nourrice paysanne pour qu'elle s'occupe de son enfant, plutôt que de se priver du revenu de la mère, qui du coup peut continuer de travailler, puisque son enfant est confié à une autre femme qu'elle. Donc en fait, toutes les strates de la société vont être engagées dans la mise en nourrice. L'aristocratie, la grande bourgeoisie depuis longtemps, c'est une pratique élitiste, mais aussi les classes populaires urbaines, et puis même les plus vulnérables, qui elles n'ont pas les moyens de garder leur enfant, les abandonnent, et l'assistance publique, les hospices plus l'assistance publique, les confient du coup à des nourrices.
Des nourrices pour les plus pauvres, les plus modestes, et pour les plus riches, dans la volonté des aristocrates et de la haute bourgeoisie de confier son enfant, vous le dites, hein, c'est une posture sociale, bien sûr. Quelle est l'idée, quel est l'argument derrière cela de dire ben non, je ne vais pas allaiter mon enfant moi-même?
Alors, il y a plusieurs représentations de ces familles qui confient leur enfant nourrice qui ont été analysées pour l'époque médiévale et moderne, mais on voit l'allaitement comme une fonction animale. Une fonction animale qui prive par ailleurs le corps de la femme des soins de son époux, à savoir que dans les théories médicales de l'époque, on n'allaite pas quand on a des rapports sexuels de peur de contaminer le lait. Donc allaiter son enfant, ça voulait dire que la femme n'était plus disponible pour les rapports sexuels avec son époux. Et du coup, il y a à la fois une forme de statut, de prestige social à maintenir qui fait qu'on peut confier, parce qu'on a des personnels domestiques, parce qu'on a des, parfois des esclaves, parce qu'on a, quand on est un seigneur sur son fief, on a là justement des sujets qui du coup prennent en charge les nourrissons et exécutent cette fonction d'allaitement qui est vue comme une fonction d'animal. Et puis c'est aussi quelque chose qui éclaire en fait les rapports dans les couples à cette époque-là, à savoir que c'est l'homme qui décide de la disponibilité du corps de sa femme et qui du coup place l'enfant en nourrice pour que cette dernière continue de lui appartenir à son envie.
Placer l'enfant en nourrice. Donc là, nous avons une idée de déplacement. Le ouais. Placer quelque part, c'est aussi l'autre complexité quand on regarde ces nourrices, c'est de savoir à quel endroit elles allaitent l'enfant. Est-elle cette nourrice proche de l'enfant dans le foyer ou est-ce l'enfant qui se rend chez la nourrice ?
Alors, on a effectivement déjà un peu abordé le sujet, à savoir qu'il y a un peu deux formes de nourrissage. Le nourrissage sur lieu et puis le nourrissage donc sur lieu au domicile des familles et le nourrissage sur place au domicile de la nourrice. Pour ce qui est du nourrissage sur place, qui est celui le plus massivement pratiqué, à mesure que la mise en nourrice se développe, se démocratise, s'institutionnalise, on confie de plus en plus loin son enfant. Pour plusieurs raisons. Plus la nourrice est loin, en général, moins elle coûte cher. Et puis aussi parce que la révolution des transports facilite de plus en plus l'interconnexion, on parlait de ça tout à l'heure, des territoires ruraux avec les territoires urbains et facilite du coup les allées et venues de ces nourrices qui viennent chercher un nourrisson en ville et puis le rapportent chez elles. Mais pour vous donner une idée, un peu un ordre de grandeur, Paris place ses enfants jusqu'à 400 km de la capitale. Donc ça suppose des choses, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est aussi loin de... Et ça, je vous dis ça, c'est pour fin 18e, début 19e. Si on est aussi loin de la ville en elle-même, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'on a rarement des nouvelles de son enfant, qu'on peut pas nécessairement aller le voir, et que du coup, les deux premières années de la vie de ce nourrisson, s'il survit, et ben, on sont tenus à l'écart en fait de la vie de sa famille.
Les nourrices sur lieu ou à emporter ?
En France, il y a deux sortes de nourrices, les nourrices sur lieu et les nourrices à emporter. Les nourrices sur lieu étaient engagées au domicile des parents bourgeois pour allaiter les nouveau-nés. Les nourrices à emporter, au contraire, étaient des paysannes qui prenaient en pension chez elles, à la campagne, des bébés de la ville, pour les nourrir soit de leur lait, soit au biberon. La clientèle de ces deux sortes de nourrices est donc différente. La nourrice sur lieu a une clientèle bourgeoise, la nourrice à emporter une clientèle beaucoup plus modeste. Les nourrices à emporter reçoivent des enfants d'ouvriers, d'employés, de domestiques, de commerçants et de négociants. Donc, se séparaient de leurs enfants les gens qui avaient peu de temps, peu de place et peu d'argent. Envoyer un enfant chez une nourrice à emporter est déjà quelque chose de cher. On paye environ 30 francs par mois, c'est-à-dire le salaire mensuel d'une bonne à tout faire environ. D'où le nombre important d'abandons d'enfants par des mères célibataires qui ne peuvent plus faire face à la dépense. Mais le coût d'une nourrice sur lieu est 3 ou 4 fois plus élevé. En plus de ces gages, qui sont très importants, de 50 à 100 francs par mois selon qu'elle est fille, mère ou mariée, on paye à la nourrice sur lieu le logement. Elle est entièrement habillée aux frais des maîtres, y compris les sous-vêtements. Son costume est luxueux, c'est une question de prestige pour les maîtres. Elle reçoit, en plus de tout cela, des gratifications spéciales pour la première dent de l'enfant, pour ses premiers pas, pour les fêtes et les anniversaires.
L'historienne Anne Martin-Fugier, qui venait de publier La Place des Bonnes, c'est un ouvrage remarqué, on est à la fin des années 1970, avec cette distinction donc de ses nourrices qui demeurent chez elles et à qui l'on confie un ou plusieurs enfants. D'ailleurs, ils peuvent en avoir plusieurs parce qu'il faut suffisamment de lait.
Alors, théoriquement, non, c'est interdit par la loi.
Vous me rassurez.
Elles sont censées ne pouvoir allaiter qu'un enfant et elles sont aussi censées avoir sevré leur enfant.
Oui, voilà. Bien sûr, pour pas avoir à nourrir leur enfant et des nourrices qui vont chez les maîtres. On entend bien ici cette distinction et distinction sociale aussi. Donc, le plus prestigieux, c'est d'avoir une nourrice chez soi que l'on a fait venir de loin.
Oui, tout à fait. Ça boucle un peu avec ces pratiques aristocratiques dont on parlait un peu tout à l'heure, à savoir que c'est une d'abord une pratique de classe. Et le fait d'avoir sa nourrice à domicile permet plusieurs choses. Bah déjà, Anne-Martin Fugy l'expliquait très bien. C'est-à-dire qu'on peut décider de comment elle s'habille, on peut décider de son régime, on peut décider de à quelle heure elle dort. En fait, elle est extrêmement contrôlée, extrêmement encadrée. Et par ailleurs, c'est une domesticité d'apparat. C'est-à-dire que la nourrice, parmi le personnel domestique des familles aristocratiques et bourgeoises, c'est celle qui souvent est le mieux payé. C'est celle qui souvent a sa propre chambre, mais parce qu'elle dort avec le nourrisson. C'est celle qui souvent effectivement a les vêtements les plus luxueux, et puis il y a même une forme de fétichisme un peu régionaliste où on va avoir sa nourrice morvandelle, donc du Morvan, avec sa tenue traditionnelle, de même la nourrice bretonne, de même la nourrice suissesse, et ces dernières on les envoie après se balader au jardin du Luxembourg avec les landaus des enfants des familles, et on montre un peu de cette manière la forme de distinction sociale de ces familles qui les emploient. Donc à la fois, elles sont privilégiées par rapport au reste du personnel de domestique de maison. Elles sont privilégiées aussi économiquement par rapport aux nourrices qui accueillent chez elles des enfants de l'assistance publique. Enfin, c'est des écarts de salaire du 1 au triple, quoi, pour faire vite. Mais par contre, elles font l'objet d'une surveillance beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'elles sont au domicile de leur maître. Ça veut dire qu'on contrôle leur entrée et sortie. Je vous disais, on contrôle leur régime et comment elles s'habillent. Ça veut dire aussi qu'elles sont privées de leur famille. Elles ne peuvent pas les voir, elles ne partagent plus le quotidien ni de leur époux, ni de leur enfant. Et donc, c'est des arbitrages qui, à la fois, permettent un gain économique plus important, mais qui recouvrent une situation de travail plus difficile.
Et pour les parents, ça permet de voir les enfants, ce qui est pas mal, déjà. Parce que pour un enfant qui a été placé dans un foyer, donc vous avez dit jusqu'à 400 kilomètres, ça veut dire que pendant 2 ans, on imagine que c'est cela, c'est ce que vous disiez, pendant 2 ans, on ne voit pas l'enfant. C'est extrêmement lourd de sens aussi aujourd'hui quand nous nous projetons avec notre rapport à l'enfant actuel.
Oui, alors c'est vrai que on a un peu oublié, mais le système du confiage d'enfants et de la circulation d'enfants, en fait, c'était quelque chose qui était très courant à l'époque médiévale et moderne. On avait l'habitude, en fait, que les enfants partent de la maison. Mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce que ça recouvrait, en fait, réellement. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les enfants les premières années de leur vie. On n'a pas le premier lien qui se crée avec une figure d'attachement. C'est pas la mère qui a accouché de cet enfant, c'est celle qui s'en occupe et qui l'allaite au quotidien. Alors bien sûr, il y avait des formes de nouvelles qui étaient échangées. Les nourrices pouvaient, du coup, grâce à un écrivain public, la plupart du temps, rédiger des lettres et adresser des courriers aux familles pour les tenir informées de leurs enfants. Les familles elles-mêmes pouvaient faire le voyage de temps à autre. Peut-être pas pour celles qui étaient, pas pour les nourrices qui étaient à plus de 300 ou à 400 kilomètres, mais pour celles qui étaient un peu plus proches de la ville, on pouvait s'y rendre de temps à autre. Et inversement, on pouvait demander aussi aux nourrices de temps à autre de venir. Mais tout ça, ça suppose des frais. Ça veut dire qu'il faut payer le voyage, soit qu'on y aille, soit que la nourrice vienne. Et donc là encore, ça dépend des arbitrages économiques des familles et de ce qu'elles pouvaient se permettre.
Avec ici des régions, j'ai bien entendu ce que vous nous disiez, Clyde de Plumosil. Quand il faut faire venir une nourrice, c'est bien si elle est normande, si elle vient du Morvan, si elle vient de Suisse ou d'Alsace ou de Bretagne, pourquoi pas. Est-ce que nous avons la même démarche quand il faut envoyer des enfants chez des nourrices? J'imagine que c'est ça. Ce sont des régions privilégiées?
Oui, en fait, il y a un peu des régions réputées de bonnes laitières, quoi, pour faire vite. Parce que déjà, il y a cette conception que les femmes des campagnes, je mets des gros guillemets, seraient plus saines que les femmes des villes. Disposerait d'une meilleure santé, serait plus robuste et aurait donc un meilleur lait pour les enfants. Donc ça, c'est de manière générale, c'est cette forme d'essentialisation des territoires ruraux depuis les villes. Par ailleurs, il y a certaines régions qui étaient vues, notamment au XIXe siècle, sous l'œil des médecins hygiénistes, comme disposant de caractéristiques les plus à même de perpétuer la race française. Et donc, les Morvandelles, les Bretonnes, les Normandes sont celles qui le plus souvent sont mises en avant, non sans écho d'ailleurs au fait que souvent ce sont des régions aussi où il y a d'importants troupeaux de vaches. Et il y aurait une forme de continuité comme ça entre les vaches laitières et les femmes de ces terres qui seraient à même du coup de pouvoir satisfaire les nourrissons des villes.
Évidemment, Clyde Plumosil, vous reprenez les discours médicaux des temps passés pour expliquer pourquoi certaines régions ont la faveur des parents qui cherchent à nourrir leurs enfants.
Autrefois, ne le sais-tu pas, les nourrices, tout aussi bien que les soldats, portaient un uniforme.
Oui,
la coiffe locale avec des ornements brodés sur la percale.
Ou bien de gros bonnets à coque de ruban.
Des rubans écossais larges et retombants.
L'amble cape si chère à la nourricerie.
Le col, le tablier de fine lingerie.
Et sur la nourrice d'Alsace, l'ample nœud de ruban dessinait la rosace. Et la nourrice alsacienne chantonnait pour endormir le pouponnet.
Schlaf, schlaf, Rudelin, schlaf.
Nous traduirons la chanson, n'est-ce pas?
Dors, mon garçon, dors. Les moutons paissent au pré. Les agneaux près des maisons. Dors, mon bel ange doré. Dors, dors, mon mignon, dors. Répondant, au ciel un chien fait bouger les agneaux et les moutons et la lune et leur berger. Dors, dors, mon fripon dort. Oh.
Clyde Plumosil. Ouh, vous êtes pas endormi, moi non plus. Elle est très belle, cette berceuse. Ce sont les moutons dans le ciel. C'était d'archives de 1950. Avec cette proximité que vous évoquiez entre l'enfant et sa nourrice, mais si elle s'en occupe les deux premières années de sa vie, il ne s'agit pas uniquement de le nourrir et de le garder au sein. Il y a d'autres activités que la nourrice fait avec l'enfant.
Ben ça, je pense que c'est très important de le rappeler et de le préciser parce que souvent, ce que les réformateurs moraux ont essayé de plastronner à tout va depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, afin de promouvoir l'allaitement maternel par la mère et donc contre les nourrices qui seraient supposément responsables de l'importante mortalité infantile de l'époque. C'est que ces femmes ne sont pas que des femmes au sein mercenaire, comme les appelait par exemple Louis-Sébastien Mercier, cet observateur polygraphe du Paris de la fin du XVIIIe siècle. Ce sont des femmes qui prennent soin des enfants. Et donc il est important, c'est quelque chose voilà que l'histoire peut faire, d'essayer de déplier les archives pour retrouver l'ensemble du travail nourricier que recouvrait du coup leur fonction, à savoir bien sûr un travail d'allaitement, mais rappelons-le, et vous l'avez dit en début d'émission, toutes les nourrices n'allaitent pas. Il y a des nourrices sèches, donc elles allaitent parfois au biberon, grâce à du lait de chèvre notamment. Il y a un travail de garde d'enfants, c'est un travail de présence. Il y a un travail de soins qui fait même des nourrices tout au long du 19e siècle des sortes d'auxiliaires médicales, puisque notamment pour les nourrices de l'assistance publique, elles sont censées amener les nourrissons à des visites médicales régulières pour s'assurer de leur bonne santé. Et donc, elles sont censées aussi prendre connaissance des attendus d'hygiène et de puériculture que recouvrent leurs fonctions. Et puis, il y a un travail d'éducation. Ça veut dire que c'est avec ces dernières que l'enfant va découvrir sa motricité, ses premiers mots, parler, s'engager. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui compose le métier de nourrice, mais qui a été très largement invisibilisé. Déjà parce que c'est un travail qui est vu comme un travail qui ne devrait pas en être un travail gratuit qui est supposé être le prolongement de l'amour maternel. Ensuite, parce qu'il est exécuté par des paysannes, longtemps analphabètes, longtemps éloignées des centres urbains qui sont ceux qui édictent en fait les normes de puériculture et de prise en charge de l'enfance. Et aussi parce que c'est un travail qui est peu rémunéré. Donc on a un intérêt en fait à insister simplement sur des fonctions corporelles pour diminuer en fait les savoir-faire et les savoir-être que ces femmes mettent en place au quotidien.
Des nourrices qui accueillent des enfants chez elles, des jeunes femmes qui partent en ville pour nourrir des enfants chez des grands bourgeois, des aristocrates, et pas seulement. Ouais. Et puis l'assistance publique. Alors, les enfants de l'assistance publique sont placés en nourrice. Là, ce sont des enfants qui sont envoyés à la campagne.
C'est ça. Dès la fin du XVIIe siècle, quand s'organise et se systématise la prise en charge de l'enfance abandonnée, on va avoir recours à des nourrices de campagne. Déjà pour une raison, c'est que les hospices se méfient des femmes des villes qui voudraient être nourrices parce qu'ils imaginent que ces dernières pourraient abandonner leur enfant à l'hospice, puis après se faire embaucher comme nourrice pour pouvoir les allaiter contre rémunération. Donc on décide de privilégier un recrutement de nourrices en campagne. Et aussi parce que voilà, on a toujours en tête cette idée que l'air de la campagne est plus pur et meilleur, etc. À mesure que donc cette prise en charge de l'enfance abandonnée, elle s'institutionnalise, notamment avec la création de l'assistance publique au mi-temps du 19e siècle, on va du coup de plus en plus investir les territoires ruraux environnants avec une sorte de avec une sorte de prétention agrariste, c'est-à-dire que l'État, qui est l'autorité de tutelle de l'assistance publique, qui organise le placement des enfants abandonnés, pense que les campagnes sont un lieu à investir pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a beaucoup d'espaces vides qui permettent du coup d'être repeuplés par les enfants abandonnés, et puis que on a là à la campagne, des bons ménages paysans qui disposent en général d'une parcelle, d'un terrain, qui vont pouvoir ensuite mettre au travail ces enfants abandonnés et donc à partir de là pouvoir permettre la fabrique de sujets en bonne santé et de bons sujets pour la France, bien travailleurs dans les campagnes environnantes.
Parce qu'il y a un regard porté par les autorités sur ce monde des nourrices. Quand il s'agit de l'assistance publique, nous comprenons pourquoi, parce qu'il y a la responsabilité ici de l'État. Pour les autres nourrices, là aussi un regard porté sur l'organisation, parce que on imagine bien qu'il doit se passer des choses terribles et que on veut savoir comment ça s'organise.
Ça, c'est vraiment une spécificité française, et ce qui fait aussi que depuis les années 1980, les historiennes, historiens, mais surtout les historiennes, se sont emparées du sujet des nourrices, et qu'on a beaucoup d'archives en fait de cette vigilance étatique et institutionnelle. À partir du moment où s'organise la prise en charge de l'enfance abandonnée à la fin du XVIIe siècle, qu'elle se massifie au XVIIIe siècle, l'État intervient dans ce qu'il appelle le trafic des nourrissons. Il intervient à deux niveaux. Il intervient déjà dans la façon dont les hospices des enfants abandonnés vont organiser ce marché nourricier, mais aussi pour les familles qui elles-mêmes placent leurs enfants en nourrice. Et à partir du début du XVIIIe siècle, il y a deux déclarations royales de 1715 et de 1727. En fait, ce dernier va mettre en place, l'État, une sorte de grand enregistrement des nourrices et des nourrissons. On veut savoir leur identité, on veut savoir leur adresse, on veut savoir quand est-ce qu'elles prennent ce nourrisson, de quelle famille il est, pour combien d'argent, pour combien de temps. Donc vraiment, il y a la mise en place de registres de déclarations de nourrices qui s'institutionnalisent au début du XVIIIe siècle, qui se développe au départ à Paris, puis dans l'ensemble des grandes capitales régionales tout au long du XIXe siècle, et qui fait l'objet d'une réglementation de plus en plus soutenue, qui repose donc sur une forme de surveillance administrative, donc on enregistre, on visite, qui nécessite des certificats, c'est-à-dire que les nourrices, pour être nourrices, doivent avoir un certificat de bonne vie et mœurs, de la part de leur prêtre d'abord, puis du maire de leur commune, puis un certificat médical pour attester qu'elles sont saines et qu'elles n'ont pas notamment la syphilis. Tout au long du coup de leur travail, elles doivent donner des gages à l'administration policière et hospitalière qui les encadre. Et tout ce système est cristallisé par la loi Roussel de 1874, qui véritablement établit que pour tous les nourrissons, qu'ils soient abandonnés ou confiés par leur famille en nourrice, ces derniers doivent faire l'objet d'une surveillance administrative soutenue les deux premières années de leur vie.
Oui, parce que ce sont des années essentiel, on le sait bien aujourd'hui encore, pour les enfants, mais que la mortalité infantile, tant évoquée, cette mortalité infantile qui fait que la mortalité est très forte, en réalité c'est la première année de la vie des enfants, et les études démographiques le montrent bien, donc c'est aussi un enjeu de société majeur.
Oui, c'est un enjeu de société, un enjeu aussi pour l'État de se définir par la richesse de sa population, de ses sujets. On est obsédé par la dégénérescence de la race française et sa dépopulation aussi, du coup, on essaye le plus possible de lutter contre la mortalité infantile. À la seconde moitié du 19e siècle, la mortalité infantile, c'est 19% des enfants qui naissent dans les deux premières années de leur vie. Mais pour les enfants placés en nourrice, ça peut aller jusqu'à 40%. Donc véritablement, ces dernières et la mise en nourrice sont vues notamment par les médecins réformateurs libéraux comme responsables de ce qu'on appelle alors l'hécatombe des nourrissons. Il y a un médecin qui est aussi maire de sa commune dans le Morvan, qui s'appelle le docteur Monod, qui en 1860, en fait, sort un ouvrage à charge contre ce qu'il appelle l'industrie nourricière. Donc le terme industrie montre un peu la massification du système, son caractère presque inhumain, pour dénoncer le fait que la mise en nourrice est la principale cause, en fait, de l'importante mortalité infantile. Ce qui, pour lui, nécessite qu'on abolissent cette pratique, mais ce qui, du côté de l'État, qui ne peut pas se permettre une même forme de radicalité parce que les femmes des villes, elles, ont besoin de continuer de travailler, les femmes des champs, elles, ont besoin d'avoir un emploi pour, et d'avoir de quoi subvenir pour faire tenir les équilibres économiques fragiles de leur ménage, mais en tout cas, du coup, s'efforcent de mettre en place un ensemble de dispositifs réglementaires et médicaux qui permettent de baliser les premières années si malheureusement mortifères de la vie de ces nourrissons. Et juste pour revenir rapidement sur cette question d'hécatombe des nourrissons, qui ont donc des termes forgés au 19e siècle dans un peu la croisade morale contre les nourrices et cette fameuse industrie nourricière. Ça a été parfois repris par des historiens tels quels au XXe siècle, les enquêtes qui ont été menées, notamment par Jean-Pierre Bardet, ont insisté sur le fait que, certes, il y a une plus grande mortalité infantile en nourrice, et il ne s'agit pas de la nier, mais il est important de remarquer aussi que souvent, les nourrissons qui leur étaient confiés étaient souvent des nourrissons en plus mauvaise santé. De fait, justement, des conditions précaires desquelles ils venaient. Et que donc, il fallait aussi voir que dans cette statistique, ça disait quelque chose de la vulnérabilité des parents abandonneurs et des nourrissons, du coup, qui se retrouvaient confiés chez ces nourrices.
Dans le cours de l'histoire, cet intérêt pour les femmes dans les mondes ruraux, avec ces nourrices, quand les filles des champs veillent sur les enfants des autres, sachant que les femmes ont tant d'activités à la campagne, ces doubles, triples journées, bien sûr. Pendant ce temps, à côté, il est question de flottage. Le flottage, c'est le transport du bois sur les cours d'eau, et de charrois, c'est le transport par chariot.
Les jeunes femmes morvandelles se mariaient relativement jeunes. Au premier enfant, la belle-mère élevait l'enfant et elle partait vendre son lait à Paris. Dans énormément de grandes familles, on reçut des nourrices morvandelles. Dans le Nord également. Par exemple, ici, moi, j'ai eu par la suite une vieille employée qui avait été nourrice à Lille. D'autres que j'ai connues ont élevé de grandes familles à Paris. Et la nounou restait la nounou jusqu'à sa mort. Moi, même encore à l'heure actuelle, je connais des gens qui viennent sur la tombe des nounous.
Et pourquoi les nounous partaient comme ça?
Elles avaient besoin d'argent. Morvan était un pays pauvre. Les hommes faisaient le flottage. Ils étaient le charroi. Et pendant ce temps-là, les femmes... Et après, elles revenaient quand elles arrivaient à un âge presque canonique. Elles rentraient au pays. Et rarement, une morvandelle élevait son enfant à elle. C'était presque toujours la belle-mère ou la mère.
Mademoiselle Julien, en 1977, qui présentait Les nourrices qui quittent le Morvan. Clyde Plumosil, il faut maintenant comprendre comment fonctionne ce système des nourrices, parce que on l'entend, elle va vendre son lait, la phrase est d'ailleurs très forte, parce que elle vend une partie de son corps, c'est aussi une histoire du corps que vous écrivez là. Et puis, il y a dans cette archive l'évocation que l'enfant de la nourrice, l'enfant qu'elle a fait naître, est confiée de façon à ce qu'elle puisse donner son lait à un autre enfant. Donc pour être nourrice, déjà, il faut avoir eu un enfant pour avoir du lait.
Oui.
C'est la base.
Tout à fait. Il faut avoir un enfant pour avoir du lait et il faut aussi que son enfant soit gardé par quelqu'un d'autre que soi pour pouvoir être nourrice. En fait, ce qui est intéressant avec le système de la mise en nourrice, c'est de voir aussi les relations d'interdépendance. Alors déjà, on l'a dit, entre ville et campagne, puisque les ménages des villes ont besoin du travail des femmes des campagnes pour pouvoir eux-mêmes avoir les deux salaires du ménage, pour que les femmes des villes puissent continuer de travailler. Et les nourrices, elles, pour pouvoir être nourrices, ont besoin de faire appel aux solidarités communautaires et familiales. afin de faire garder leur enfant. En tout cas pour celles qui vont travailler au domicile des familles. Et donc ça, effectivement, c'est intéressant parce que ça résonne un peu avec les travaux propres à ce qu'on appelle aux questions de care aujourd'hui, à savoir tout ce qui relève des métiers, du soin et du lien à autrui, de la prise en charge d'autrui. Et ça nous montre aussi comment cette prise en charge est toujours le fait de chaînes d'interdépendance. Il y a un peu une sorte de chaîne du nourrissage. On va avoir, par exemple, donc une femme boutiquière de ville qui va placer son enfant chez une nourrice qui, elle-même, du coup, a dû sevrer son enfant et donc confier parfois son enfant, en général, aux grands-parents. Ça, c'est quand on a la possibilité d'avoir voilà, soit sa famille, soit la famille de son conjoint qui peut prendre en charge cet enfant, que du coup, on n'élève pas. Si la nourrice se déplace au domicile des familles, alors là, effectivement, le nourrisson, son nourrisson à elle, peut être soit pris en charge par son époux, mais en général, il fait appel du coup à une femme qui vient travailler la journée pour s'occuper de son enfant. Elle peut, là encore, faire appel effectivement à sa famille, ou alors à ce qu'on appelle des sous-nourrices, c'est-à-dire qu'il y a des nourrices pour les nourrices, qui sont généralement des nourrices de village qui ont plusieurs enfants de nourrices partis en ville et qui s'en occupent sous la forme d'une garde de jour, la plupart du temps. Et donc, c'est important de comprendre que les arbitrages économiques des familles urbaines sont codépendants des arbitrages économiques des familles des territoires ruraux. Et que c'est un peu une cascade, c'est-à-dire qu'en général, la logique, c'est qu'on confie toujours à plus démunis que soi. C'est comme ça qu'on peut à la fois obtenir des gains de son salaire et rémunérer la personne qui va s'occuper de son enfant. Mais donc, ça nous dit à la fois les interdépendances et les asymétries entre les différentes familles de cette France du 19e, début 20e siècle.
Et c'est vraiment passionnant ce que vous nous racontez là, Claude Pomosé, parce qu'on a ici des prix à fixer. Ouais. Et donc, la nourrice elle-même n'a pas simplement son lait. C'est-à-dire qu'elle doit confier son enfant. Elle peut sevrer son enfant au bout de combien de temps? C'est 2 mois à peu
près? C'est 7 mois.
7 mois.
Alors, d'après la loi, c'est 7 mois, mais elles le font souvent plus tôt.
C'est-à-dire que les enfants de nourrice, et l'enfant qui vient de naître, a moins de lait que l'enfant qu'elle va garder, parce qu'elle peut nourrir un enfant pendant combien de temps?
Alors, théoriquement, elle est censée l'allaiter, si elle le peut, jusqu'aux 2 premières années de sa vie, ou 18 mois, c'est la moyenne. Mais on sait que la plupart du temps, elles arrêtent l'allaitement au cours de ces 2 années. En général, c'est quand même la première année qu'elles allaitent et après, elles arrêtent. Mais il faut savoir que pour les nourrices, c'est plus intéressant économiquement d'allaiter que de devenir nourrice sèche. On est plus payé quand on est nourrice allaitante que quand on est nourrice sèche au biberon. Donc, il y a un intérêt économique potentiellement à faire durer l'allaitement. Mais parfois, il y a un intérêt en termes de situation sociale à l'interrompre pour avoir, par exemple, d'autres activités à côté, pouvoir aider aux travaux des champs. Par exemple, si on a un nourrisson chez soi, on peut arrêter d'allaiter, lui donner le biberon ou commencer à le faire manger et puis, du coup, faire d'autres activités. Parce que l'allaitement, ça suppose une disponibilité corporelle de chaque instant.
Ah oui, parce qu'un enfant mange sans cesse toute la journée et donc il n'est pas possible d'aller faire un travail à côté dans la volonté de trouver une nourrice. Comment se présentent les choses? Où aller? À qui demander? Parce que vous nous disiez, on peut aller jusqu'à 400 km. Mais enfin bon, on n'arrive pas dans un village au hasard en tapant à toutes les portes en disant, est-ce que quelqu'un veut bien prendre mon enfant? Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont déjà en place?
Alors oui, effectivement, c'est là encore c'est cette spécificité française autour de laquelle on tourne depuis le début, à savoir que le marché nourricier a fait l'objet d'une institutionnalisation et d'une étatisation depuis le XVIIIe siècle, puisque c'est à cette période-là que l'État commence à organiser des bureaux de placement de nourrices. Et c'est ces bureaux de placement qui enregistrent les nourrices qui désirent donc avoir un nourrisson et qui gardent la trace des transactions entre les familles qui confient leurs enfants et des nourrices qui les accueillent. Donc ces bureaux de nourrices, ils sont mis en place dès le début du XVIIIe siècle. Ils sont d'abord un organisme public sous surveillance de l'institution policière, donc la lieutenance générale de police au départ, puis la préfecture. À partir du 19e siècle, dans les années 1820, il s'ouvre à la concurrence privée. Il y a des bureaux de placement, alors de domestiques, ça a toujours existé, et qui placent aussi des nourrices. Donc il y a à la fois des bureaux publics, des bureaux gérés par la municipalité, et des bureaux privés, donc gérés par des entreprises de placement domestique. Et c'est à ces derniers, à ces guichets que la plupart des familles peuvent s'adresser. Mais il faut savoir que pour bon nombre de familles de l'aristocratie ou de la bourgeoisie, en général, on passe par des intermédiaires que sont les médecins de famille, les sages-femmes, le réseau interpersonnel pour se trouver une nourrice. Et on court-circuite ces institutions qui sont censées théoriquement encadrer le marché nourricier puisqu'elles gardent la trace donc, des échanges entre nourriciers et familles des nourrissons.
Vous avez cité tout à l'heure Louis-Sébastien Mercier, l'auteur du tableau de Paris, est dans les années 1780, qui nous dresse, c'est vrai, un magnifique tableau de Paris, mais pas seulement de Paris, parce que les interconnexions sont très fortes avec la campagne. Nous le retrouvons.
C'est un homme qui apporte sur son dos des enfants nouveau-nés, dans une boîte matelassée qui peut en contenir trois. Ils sont debout dans leur maillot, respirant l'air par en haut. L'homme ne s'arrête que pour prendre ses repas et leur faire sucer un peu de lait. Quand il ouvre sa boîte, il en trouve souvent un de mort. Il achève le voyage avec les deux autres, impatient de se débarrasser de ce dépôt. Quand il l'a confié à l'hôpital, il repart sur le champ pour recommencer le même emploi qui est son gagne-pain.
Moi, je suis voiturier. Et j'ai conduit à la maison de la couche de Paris 12 enfants le 27 mai 1789. Le 12 juin, je suis revenu avec 15 autres nourrissons. Pour moi, il n'était pas question d'une boîte matelassée, mais d'une voiture cahotante où, il faut bien que je l'avoue, à chaque instant, l'enfant risquait de se briser la tête.
D'où proviennent ces enfants? Il existait alors, à travers la France, une véritable organisation, une industrie rémunératrice.
Un extrait du tableau de Paris de Louis-Sébastien Mercier, suivi d'une fiction de la chose, parce que nous étions dans la Tribune de l'Histoire en 1982. Claude Plumeauzil, qu'est-ce que sont les meneurs ici?
Oui, alors c'est important, effectivement, on a parlé donc des bureaux de nourrice, des bureaux de placement de nourrice, mais ces bureaux, ils sont alimentés par des meneurs. Les meneurs, en fait, ils travaillent pour les personnes en charge des bureaux de placement pour aller chercher des nourrices dans des ensembles de communes rurales attenantes aux grandes villes. Chacun a ses secteurs. Bon, il y a des meneurs et des meneuses, d'ailleurs. C'est pas spécifiquement masculin comme profession. Donc, ils sont en charge à la fois de recruter des nourrices et en même temps d'effectuer les allers-retours des nourrissons, c'est-à-dire amener les nourrissons aux nourrices, parfois amener les nourrices à la capitale, et aussi, enfin, récupérer les nourrissons quand le contrat est terminé, donc récupérer les nourrissons qui étaient confiés à des nourrices et les rapporter à la ville. Donc voilà, c'est un peu les commis voyageurs de ces bureaux de placement. C'est eux qui recrutent les nourrices, c'est eux qui les payent aussi, en général. Et il y a souvent des abus dans ce système, et c'est eux qui sont aussi la plupart du temps en charge de ce voyage des nourrissons qui étaient souvent très mortifères, puisque pendant la durée du voyage, les conditions étaient très difficiles. Ils étaient placés effectivement dans des boîtes ou des berceaux à plusieurs, ce qui pouvait mener parfois à des étouffements, et puis ils n'étaient pas alimentés, et donc ils pouvaient périr pendant le voyage.
Ça, c'est dans des cas qui ne correspondent pas à ce que peuvent attendre des parents de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie. On saisit pourquoi le fait de faire venir une nourrice, ce qui coûte beaucoup plus cher, c'est à la fois quelque chose d'ostentatoire, mais aussi une sauvegarde pour les enfants.
Oui, tout à fait. Et en plus, dans ces bureaux de nourrice, beaucoup de nourrices venaient se présenter. Les parents pouvaient venir les juger physiquement. Ils pouvaient leur faire passer des examens médicaux, ils pouvaient s'enquérir du tarif qu'elles exigeaient, et ils pouvaient s'assurer aussi que ces dernières repartent avec les nourrissons plutôt que les nourrissons ne repartent seuls, ceci afin d'espérer que du coup les conditions de transport soient plus viables. Et donc les nourrices repartaient avec les meneurs.
Oui, voilà. Oui, c'est ainsi que tout cela se construit avec, on l'entend bien, l'ouest de la France, qui sont des régions vraiment de recrutement pour ces nourrices, le Morvan aussi, et on peut aller encore plus à l'est, jusqu'en Alsace, avec toutes ces nourrices, mais de manière chiffrée, nous ne sommes pas du tout sur des phénomènes marginaux. C'est en cela que c'est très important, parce que on peut pas dire que c'est systématique, mais c'est un système d'ampleur, mais...
Oui.
Il y a des femmes qui allaitent en fait leurs propres enfants quand même, rassurez-vous.
Oui, bien sûr. Mais c'est un système d'ampleur inégalé en Europe. C'est-à-dire que vraiment la France a pris un virage nourricier très fort du fait de l'étatisation et de l'administration du marché nourricier, du fait de la disponibilité de ces femmes des campagnes. Mais pour vous donner un chiffre, fin 19e, on estime que 10% des nourrissons sont mis en nourrice. Mais ça, c'est à l'échelle de la France. Si on est sur les grandes villes, c'est en général entre un tiers et deux tiers des nourrissons qui sont confiés en nourrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je me souviens bien, que c'est entre 70 000 et 90 000 nourrissons chaque année placés en nourrice. Donc ça veut dire 70 000 à 90 000 nourrices pour ces derniers. Et sur ce chiffre global, 80% sont des nourrissons que les familles placent en nourrice et 20% sont des enfants abandonnés. Mais donc, il faut imaginer qu'on a presque une centaine de... Enfin, chaque année, une centaine de milliers de femmes qui s'occupent des enfants des autres. Donc c'est un phénomène central qui explique beaucoup aussi de comment ont tenu les sociétés industrielles. C'est-à-dire que ça a permis à la fois, là encore, de libérer le travail des femmes des villes, et de rémunérer celui des femmes des champs, le tout pris dans une polyactivité paysanne dont vous avez parlé d'ailleurs à l'émission précédente.
Voilà, c'est ça, hein, Femmes en sabots, les oubliés de l'histoire, à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Dès lors, c'est un marché qui se met en place, on l'entend bien, avec des recrutements, et dans tout marché, il faut savoir se vendre.
14 mai 1814, une femme âgée de 19 ans, brune, de la campagne, qui accouchera vers la fin de mai, demande à se placer pour nourrice. S'adresser, rue Grolet, numéro 34, au deuxième.
De août 1814. Une jeune femme de 26 ans, d'une bonne santé, native de Sens, en Bourgogne, désire être nourrice à domicile dans Paris. Elle a un enfant de 11 mois qu'elle offre de présenter pour modèle de ses élèves. Elle a en outre de bons répondants qui ne laisseront rien à désirer sur sa moralité. S'adresser à Monsieur Dupont, rue Culture Sainte-Catherine, numéro 9.
17 septembre 1814. Une femme de la campagne, âgée de 22 ans, grande et brune, et dont le lait est nouveau, demande à se placer pour nourrice, à la ville ou au dehors. Elle sait écrire, faire le linge, est au fait des détails d'un ménage et peut donner de bons renseignements. S'adresser à Monsieur Ferrier, grande rue Mercière, numéro 66, au troisième, par le troisième escalier.
4 mai 1816. Une jeune femme âgée de 21 ans, qui doit accoucher de son premier enfant dans les premiers jours de juillet, née à la campagne et y demeurant, à 5 lieues de la ville, désirerait se placer nourrice chez les parents. Elle est munie de bons certificats du maire et du curé, elle est au fait du service, sait coudre et faire la cuisine. S'adresser à Monsieur Roman, épicier, petite rue des Feuillants, numéro 2.
France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Des petites annonces parues dans la presse lyonnaise, parisienne. Nous étions dans les années 1814-1816 avec des lectures de Luce Mourant, Sidonie Le Beau, Jeanne Coppet, Mayouen Guizhou. Clyde Plumosil, ici de la petite annonce classique. Ça veut dire que il y a un marché et grâce à cela, vous avez vous une source intéressante pour voir les arguments avancés pour identifier une bonne nourrice.
Ah oui, les petites annonces, c'est vraiment un contrepoint documentaire intéressant par rapport aux sources du contrôle social des nourrices qu'on a, qui sont les archives hospitalières et policières qui encadrent le marché nourricier. Là, on a vraiment plutôt des sources de type économique. Donc la presse d'annonce, elle explose fin 18e, début 19e siècle. Et elle a toujours donc une rubrique de recherche d'emploi pour faire vite, où on retrouve un peu tous les travailleurs et travailleuses domestiques qui cherchent à se faire embaucher chez des bourgeois. Ce qui est intéressant, c'est que donc parmi ces annonces, on a très régulièrement des annonces de nourrices qui du coup ne passent pas par les bureaux de placement, qui ne passent pas par l'assistance publique, mais qui passent par cette espèce d'entremetteur de papier qu'est la presse d'annonce et qui du coup nous donne à voir les qualités et compétences qui sont attendues sur le marché et la façon dont elles en jouent. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, ce qui est attendu d'elles d'abord et avant tout, c'est un lait frais. Ça revient tout le temps. C'est la jeunesse, c'est un corps robuste. Alors, il est précisé souvent donc qu'elles sont brunes, parce qu'on pense que les brunes ont un lait de meilleure qualité. Elles auraient une constitution plus forte. En revanche, les blondes sont vues comme anémiées et les rousses sont très largement critiquées parce qu'elles auraient un lait ferreux. Donc, il y a toute cette déjà ces imaginaires qui gravitent dans ces petites annonces. Ça nous donne à comprendre aussi, on parlait tout à l'heure de l'âge du sevrage. Théoriquement, ces femmes, elles sont obligées d'avoir sevré leur enfant à 7 mois avant de pouvoir en prendre un autre. Dans les petites annonces, très majoritairement, on comprend qu'en fait, leur enfant a 1, 2, 3 mois et donc qu'elles cherchent à se faire recruter au plus vite parce qu'elles savent qu'elles ont ce lait comme un capital à faire valoir dès le plus rapidement en fait, auprès des familles bourgeoises et que c'est ce que ces dernières attendent. Ces dernières, elles ne sont pas du tout en attente avec les prescriptions de la loi. Elles veulent un lait frais et un corps jaune le plus vite possible. Et ce qu'on voit enfin dans ces petites annonces qui est intéressant pour comprendre un peu comment fonctionne le marché nourricier, c'est que ces femmes, elles mettent en avant donc un certain nombre de compétences physiques. Alors c'est pas propre aux nourrices parce que les travailleurs domestiques dans ces petites annonces, de manière générale, mettent en valeur leur caractère aimable, leur robustesse, mais bon. Les nourrices, elles vont parler de la carnation de leur peau, du fait qu'elles ont des bonnes dents, du fait qu'elles ont un lait frais. Bon, ça, c'est spécifique quand même. Mais elles utilisent ça pour après négocier leurs conditions de travail. C'est-à-dire que souvent, on voit les nourrices donc prises dans une relation très asymétrique, encadrées, surveillées par l'assistance publique, contrôlées, voire fétichisées par leurs employeurs bourgeois. Et elles seraient donc à disposition, ce serait comme une sorte d'offre nourricière à disposition d'une demande qui décide et qui façonne. Bah là, on voit qu'elles agissent aussi sur ce marché nourriciers. Et ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de ces petites annonces où en fait elles essayent de négocier leurs conditions de travail. Certaines essayent de venir avec leur enfant, d'autres essayent de négocier de pouvoir être nourrice sur lieu ou au contraire d'être nourrice à la campagne. Donc c'est pas l'employeur qui décide, c'est elle qui propose. Donc c'est un petit peu différent. Parfois elles estiment leurs tarifs. Enfin, elles disent aussi quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que on n'est pas que nourrice et on n'est pas nourrice toute sa vie. Et souvent, elles essayent de négocier de faire d'autres activités domestiques pour le ménage. Et donc, ça nous permet de comprendre que les carrières nourricières, elles s'inscrivent dans des trajectoires professionnelles plus larges de ces femmes. Et que donc, à certains moments, après avoir été nourrice, elles peuvent se proposer comme gardienne d'enfants, si les enfants sont sevrés, mais aussi faire de la couture, être cuisinière. Et donc, en fait, continuer économiquement de travailler pour leurs employeurs.
D'accord. Parce qu'il y a donc ces cas où une nourrice a été recrutée au sens où elle allaite l'enfant. Donc, oui. 18 mois à peu près. Et ça s'est bien passé. Donc, on la garde parce que l'enfant s'est sans doute attaché à elle aussi. Oui. Hein, ça peut jouer. Et elle peut finir sa carrière comme bonne à la maison. Oui. Et là, c'est quelque chose qui nous crée des parcours assez atypiques, oui, et pertinents parce que j'imagine bien que l'idée, c'est on nourrit l'enfant et puis c'est terminé. On n'en a plus besoin et on prend, oui, une autre nourrice parce que peut-être que quand on va avoir un autre enfant, la première nourrice, elle, ne donne plus de lait parce, oui, qu'elle n'a pas eu d'enfant.
Oui, tout à fait. Donc du coup, il y a la volonté pour ces femmes de durer dans l'emploi d'une certaine manière et de se reconfigurer aussi dans ce dernier. En fait, c'est intéressant de tout à l'heure, on parlait de ces allers-retours de femmes qui faisaient plusieurs nourritures, c'est-à-dire elles avaient un premier enfant, elles partaient à la ville pour s'occuper d'un enfant d'une autre famille, mais elle peut faire ses allers-retours et elle peut aussi, après avoir été nourrice, faire d'autres activités domestiques qui sont un peu dans son sillage, c'est-à-dire tout ce qui relève de la garde d'enfants, mais aussi de travaux domestiques comme les soins du ménage. Et c'est quelque chose d'important à avoir en tête pour comprendre aussi, là encore, et déjouer d'une certaine manière cette image de passivité qui serait que, ah bon, elles ont eu un enfant, leur corps est en capacité d'allaiter, donc elles sont nourrices, et puis après elles rentrent à la maison. C'est pas du tout ça, en fait. On est sur des stratégies économiques au long cours qui sont importantes à voir parce qu'elles nous disent quelque chose. C'est que souvent ces femmes, elles migrent, elles bougent pour rester chez elles, paradoxalement. C'est-à-dire que la migration, c'est pas une rupture avec leur territoire d'origine, c'est la volonté vraiment de consolider ce qu'elles ont sur place, à savoir rapporter de l'argent au foyer, donc si possible, durer le plus possible dans l'emploi, et puis à partir de là, investir économiquement des choses qu'elles n'auraient pas pu faire autrement si elles n'avaient pas eu ces différents travaux domestiques.
Et parfois, on devient nourrice par une rencontre fortuite.
Elle est amoureuse, comme tous les amoureux.
Et vous allez où comme ça ?
À Paris.
Ah mais vous tournez le dos à la gare de Guingois, à 14 km. Et Paris, c'est à 460 km.
Je suis pas pressée. Tu t'appelles comment, ma jolie ?
Loulotte.
Loulotte.
Louise Charlotte, mais nous l'appelons...
Loulotte.
Et le papa, c'est vous?
Mademoiselle.
Non, mais Adelbert, ça suffit. C'est une pauvresse que nous avons adoptée, la fille de mes anciens jardiniers qui...
Je tente.
Enfin bon, une histoire terrible. Et pourquoi ne viendriez-vous pas à la maison? Nous n'avons personne pour nous occuper de Loulotte pour ce soir, vu que nous n'avons plus de nourrice.
On va pas la payer.
Montez donc dans la voiture, mademoiselle.
Bécassine.
Bécassine?
Oui.
Et voici monsieur proéminent, mon homme de confiance, enfin bon. Allez, en route, Cyprien.
Le roi de la manivelle.
Le film Bécassine en 2018, un film de Bruno Podalydès avec Karine Viard, c'est la marquise de Grantaire, Denis Podalydès, c'est monsieur proéminent, et Emeline Bayard. C'est Bécassine. Bécassine, c'est une figure de nourrice. Clyde Plumosil, quelle image ont ces nourrices dans la société? Parce que il y a cet aspect avec Bécassine qui est extrêmement sympathique, mais à côté de ça, j'imagine qu'il y a énormément de peur, de fantasmes aussi sur ce que font les nourrices aux enfants quand on leur a confié.
Bah, effectivement, à partir du moment où souvent on ajoute le qualificatif de mercenaires pour qualifier l'activité qu'elles font, à savoir qu'elles seraient des mères mercenaires, ça dit un peu l'image négative qui est véhiculée par une partie de la société bourgeoise à leur égard. C'est-à-dire que déjà, ce sont des femmes des campagnes, donc elles sont vues comme ignardes, voire arriérées. Ensuite, elles font un métier qui devrait être soustrait au marché, donc elles sont vues comme mercenaires, dirigées par la pas du gain. Et en plus, on les qualifie de mauvaises mères, dans le sens où, pour s'occuper des enfants des autres, elles sont supposément censées abandonner leur propre enfant. Donc elles ont fait l'objet comme ça d'une légende noire assez importante, portée en lame de fond par cette question de la mortalité infantile. Mais dès qu'on s'intéresse justement aux trajectoires de ces femmes, à ce qui se joue pour ces dernières dans l'engagement dans le métier de nourrice, on comprend bien, en fait, que cette légende noire, elle vient disqualifier pour proposer autre chose à la place, c'est-à-dire qu'on veut absolument que les mères allaitent leurs propres enfants, qu'elle sert aussi à dire la façon dont certaines élites réformatrices des villes voient les femmes des campagnes. Mais en revanche, elle ne nous dit pas grand-chose de ce que sont les nourrices. Et ça, c'est important à garder en tête. Et c'est pour ça que toute l'émission, on est revenu un peu sur ce qui fait la sociologie des nourrices, le travail des nourrices, les enjeux que suppose leur métier. Mais je pense que c'est vraiment important de se tenir à l'écart de ce fantasme, de le prendre au sérieux pour comprendre ce que ça dit, en fait, des formes de disqualification des femmes des campagnes et de leur invisibilisation, mais aussi de voir, en fait, comment ça se passait concrètement. Quoi.
Oui, parce que pour une Bécassine qui est connue et qui est un personnage de fiction, combien de centaines de milliers de femmes qui ont nourri les enfants sont complètement invisibilisées, même si auditeurs, auditrices du cours de l'histoire nous écrivent en nous racontant des histoires de leurs grands-parents, avec l'attachement très fort à l'enfant. La grand-mère a été nourrice et s'est vue confier un enfant, et l'attachement demeure très fort, parce que c'est cela aussi, cette histoire-là, et on voit bien, ça fait surgir énormément de choses.
Je suis très contente que vous le portiez à mon attention. Il y a une mémoire, en fait, des nourrices qui est très importante, une mémoire familiale souvent très importante. Dans des régions nourricières comme le Morvan, c'est pas tant. Il y a notamment Noël Renaud qui s'est employée à essayer de... Donc elle est elle-même, je crois, arrière-petite-fille de nourrice, et elle a fait le tour de nombreuses communes dans le Morvan pour retrouver, en fait, des papiers de famille qui témoignent du départ comme nourrice de leurs aïeuls. Et ce qui est important, c'est que du coup, on voit à quel point les campagnes ont servi de territoire de production du care, en fait, d'une certaine manière, nourricier des enfants des villes. On voit comment ces femmes, elles ont laissé un souvenir un peu de prestige aussi pour les familles, c'est-à-dire qu'elles sont parties, parfois dans des familles de la haute aristocratie, qu'elles ont pu en obtenir un gain important, ce qui leur a permis en retour d'investir dans la maison familiale. Dans le Morvan, on parle des maisons de lait, par exemple, pour toutes les maisons qui ont été rénovées ou agrandies du fait, en fait, du départ en nourrice de ces femmes. Et puis, enfin, c'est souvent un souvenir aussi qui peut être douloureux, parce que c'est des femmes qui sont parties longtemps et dont on se souvient de l'absence, et du coup, que ça a pu représenter pour les familles.
Merci en tout cas à vous vivement d'être venu dans le cours de l'histoire pour nous en parler, parce que nous sentons combien ici c'est une histoire liée à des attachements intenses et dans le même temps à une totale invisibilisation. Merci beaucoup Clyde Plumosil d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci.
Prochain épisode, travailleuses immigrées, une autre histoire de la main-d'œuvre agricole.
Il y a en France plus de 1500 petits villages où la majorité de la population est étrangère. Et il y a même des communes, dans certaines communes du Gers, où on ne pouvait pas arriver à constituer un conseil municipal faute du nombre d'habitants français.
Avec cette archive, nous étions en 1953 pour évoquer les travailleuses immigrées dans les campagnes dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée par Thomas Bois à la technique, Élise Le. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Coppet, Luce Mourant, Sidonie Lebeau et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.